Rémi Azémar, tout jeune docteur en histoire, était l'invité en décembre 2025 du Centre d'Histoire du Travail et des Archives départementales de Loire-Atlantique. Objet de sa conférence, faire retour sur l'important mouvement social de 1995 qui a marqué toute une génération. Alternante FM était présente à cette occasion. Cette conférence vous est proposée en deux parties. La première s'intéresse au contexte politique, social et économique du début des années 90. Laissons la parole à Rémi Azémar.
L'idée de ce soir, ça va être un peu de vous présenter le mouvement de 95. Je sais qu'on ne va pas tous et toutes partir du même endroit parce que peut-être, vu la moyenne d'âge, plein de personnes l'ont vécu, ce mouvement de 95, peut-être de manière active, peut-être de manière plus passive, parce que bon, c'est pas parce que du coup on avait l'âge de le vivre que tout le monde l'a vécu, hein. Ça on va en parler aussi de qui participe au mouvement. Mais du coup, je vais commencer un petit peu mon introduction par présenter le mouvement rapidement, même si ça va faire redite pour plein de personnes, on va faire un petit souvenir mémoriel. Alors, les grèves de 95, de quoi on parle? Dans le cœur du sujet, on parle d'une grève qui part du 24 novembre jusque environ le 16 décembre. Il faut savoir que dans cette période-là, il va y avoir cette journée d'action nationale, plus une grève reconductible dans certains secteurs, notamment les cheminots qui vont commencer le 24 novembre et terminer leur grève de manière nationale autour du 16 décembre, mais également d'autres corporations, notamment les corporations qui sont plus dans le mouvement, ça va être les corporations des entreprises publiques, à l'image de EDF-GDF, France Télécom. On parle d'un mouvement donc interprofessionnel, un mouvement qui est plus centré sur, on va voir, sur certains secteurs d'activité, mais un mouvement social au sens qu'il il porte en lui des questions sociétales et sociales, des questions politiques, mais également il est pris en charge par une grande partie de la société. On va voir cette question de mouvement social, c'est une question qui fait débat en 1995. Est-ce que 1995 est un mouvement social? C'est pas l'analyse qu'en font plusieurs intellectuels de renommée au moment des événements. Avant de parler de ces événements-là, on va se plonger dans le contexte, parce que peut-être tout le monde n'a pas en tête ce contexte-là. La fin des années 90, c'est en partie, on va dire, en termes philosophiques, il faut savoir qu'il y a quand même une pensée positiviste qui a animé le XXe siècle avec l'idée qu'en l'an 2000, on aurait des voitures volantes, on aurait un progrès sans faille qui amènerait dans une nouvelle vie technologique le bonheur des êtres humains. Il y avait quand même une pensée philosophique qui construisait l'idée de progrès. Ce progrès-là, il va être largement attaqué à partir des années 70 et on va basculer dans un régime qu'on appelle un régime du présentisme, c'est-à-dire une gestion qu'on a aujourd'hui, hein, malheureusement on est toujours dans cette gestion-là, des temps très présents et plus de plans à moyen ou long terme. C'est plutôt une gestion de la vie politique qui déjà dans les années 90 bascule sous ce régime. Élément aussi important dans le contexte politique et économique, une transformation du capitalisme, dans le sens que on passe d'un monde en France, un monde de travail qui s'est désindustrialisé. Donc on a une vague de désindustrialisation qui commence pas dans les années 70 avec la sidérurgie, qui est une vague plus profonde qui commence dès les années 50, mais qui dans les années 90 atteint une apogée et tous les secteurs d'activité classique de l'industrie française. Il y a, pareil dans la transformation du capitalisme, une financiarisation des grands groupes, donc tout ce qu'on va connaître avec le modèle néolibéral et un capitalisme qui se base plus sur les actifs et sur la financiarisation que sur un capitalisme d'accumulation comme on avait pu avoir dans les années 60. Ce développement du néolibéralisme, il va de pair avec une transformation des discours. Ben, par exemple, je vais prendre le cas d'Alain Juppé. Alain Juppé, il fait quoi en octobre? Qui est le Premier ministre, hein, qui va être combattu pendant ce mouvement, il va récompenser Madame Commerce de France, qui est la chef d'entreprise de l'année. Donc ça, c'est par exemple une politique qui va encourager les entrepreneurs, un discours de l'entrepreneuriat qu'on entend déjà dans les années 90 de manière très prégnante. Et en face, il va dire que la fonction publique fait de la mauvaise graisse. Donc c'est-à-dire une fonction publique qui coûte trop cher. Et c'est ça qui va, on va dire, driver la politique d'Alain Juppé en termes idéologiques, c'est-à-dire une politique qui se veut une politique de rigueur, d'austérité, et d'austérité dans notamment les services publics et les dépenses publiques. Bon, rien de nouveau par rapport à aujourd'hui, on reste dans une même... pour les personnes qui n'ont pas connu 95, on reste dans des mêmes discours. On pourrait caler certains discours de 95 avec 2025. En termes de crise économique, il faut savoir qu'il y a une montée du chômage depuis les années 70. On atteint 12% de chômeurs et plus de chômeuses que de chômeurs en 1995. Donc c'est une crise très profonde. Elle fait la une de l'actualité. À part avec les attentats qu'il y a eu du GIA en octobre 1995. Sinon, c'est quand même la principale préoccupation des Françaises et des Français, cette question du chômage. La crise économique, on va voir, c'est pas une baisse, un appauvrissement de la France. Hein. Faut pas voir, c'est pas parce qu'il y a une augmentation du chômage et une augmentation de la grande pauvreté aussi qu'on va trouver dans les années 90. C'est pas une perte des richesses de la France en général, parce que il y a une augmentation du PIB constante depuis les années 80. Donc on a une accumulation de richesses en France qui augmente par rapport en 1980. La question qui se pose, c'est le partage des richesses. Les plus riches, le 1% ou 10% plus riches, vont avoir des revenus qui vont augmenter de 2%, ce qui vont faire baisser les revenus des plus pauvres en France. À cela s'ajoute, on va dire, une crise du travail, c'est-à-dire que dans notamment les anciennes entreprises nationalisées, on a, je prends le cas de la SNCF, on a embauché tout un tas de managers issus d'écoles de commerce au début des années 90 qui viennent instaurer au niveau des sièges des nouvelles prérogatives. On s'éloigne du service public pour faire une entreprise rentable. On peut prendre le cas de, par exemple, quelque chose qui est assez pour nous courant aujourd'hui. Quand vous achetez un billet de train, vous l'achetez 3 jours à l'avance ou 1 mois à l'avance. On sait toutes et tous qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut bien regarder quand on l'achète parce que ça ne coûte pas le même prix. Avant, dans les années 80, au début des années 80, le prix était indexé au kilomètre, que vous preniez 12 ans avant, 1 mois avant ou 1 jour avant. Là, on est sur une politique qui a été mise en place notamment par toutes ces personnes issues d'écoles de commerce qui vont dans les années 90 de plus en plus déréguler ce billet du train pour en faire une variable de bénéfice. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en 2025, on a des actionnaires de la SNCF qui engrangent de grands bénéfices. Donc cette crise du travail, elle est aussi, elle n'est pas seule. Donc je vous ai parlé d'une crise du travail, une crise économique. Il y a une crise sociale. 95, c'est les premières grandes... Enfin, c'est pas les premières, parce qu'il y en a eu dans les années 70 et 80, mais c'est les premières émeutes dans les banlieues sur la question centrale du chômage. C'est vraiment ça qui va concentrer, on va dire, la colère des jeunes des quartiers populaires, dans le sens que je vous ai parlé de 12% du chômage, du taux de chômage en France, mais c'est un taux qui est très inégal. C'est-à-dire que si vous allez dans certains quartiers de Marseille, on est à 35% de chômage. Marseille, au sens général, c'est 20% de chômeurs et chômeuses. Donc on a une crise sociale avec des émeutes, notamment à Strasbourg en octobre. On a, bon, tout ça c'est assez documenté, vous avez peut-être entendu parler du film La Haine. Il y a le groupe NTM aussi qui prend de la place, et il y a ce discours des banlieues qui commence à émerger. C'est vraiment 95 tout ça. Donc on a cette crise sociale, et à cela s'ajoute une crise politique. 1995, il y a plein d'affaires politiques. Alain Juppé, mon premier ministre, est pris en septembre, donc il est condamné de... Enfin, pas condamné, donc il y a une sorte de... Mais en tout cas, il est reconnu coupable, sans être condamné, d'avoir loué un appartement à très bas prix par rapport au prix du marché. Il y a plein de crises politiques, que ce soit à droite comme à gauche, plein de hommes et femmes politiques qui sont pris dans des scandales. Et on a également, pour comprendre un peu la situation politique, une Assemblée nationale qui est très marquée à droite. 488 députés sur 577 sont dans la majorité. Donc on a une gauche qui a 81 députés, c'est son taux le plus bas. Elle est très affaiblie après les élections de 1993. Et dans cette crise politique, il faut voir que ça a dans les partis politiques, il y a de plus en plus de personnes qui ont arrêté d'adhérer. Le Parti communiste a perdu plus de la moitié de ses adhérents. Le Parti socialiste également a perdu de nombreux adhérents. Donc on a une crise des partis politiques. Et enfin, peut-être dernier élément de contexte, parce que 1995 quand même découle de cet élément politique important, qui est le traité de Maastricht. C'est-à-dire qu'en 1992, la France ratifie le traité de Maastricht avec un accord, pour le coup, de la majorité du Parti Socialiste et de la majorité de la droite, même s'il y a des oppositions internes. Mais en tout cas, ce traité de Maastricht, il prévoit quoi notamment ? L'ouverture à la concurrence des services publics, c'est-à-dire que nous, EDF-GDF, peut aller proposer son électricité en Allemagne, et la compagnie d'Allemagne peut aller proposer un électricité en France. C'est ça un peu l'idéologie qu'il y a derrière, qui va nous concerner. Après, il y a plein d'autres éléments dans le traité de Maastricht. Peut-être un dernier élément de contexte, c'est qu'on a déjà aussi attaqué la question des cotisations sociales. Il faut voir que le financement de la sécurité sociale, tel qu'il est pensé en 1946 et tel qu'il est construit dans les années 50 à 80, c'est des cotisations sociales, c'est-à-dire qu'on a un coût du travail, c'est-à-dire que nous on travaille pour 3000 euros et moi j'en touche 1800 euros. Les 1200 euros sont reversés dans les caisses, donc ça c'est ce qu'on appelle la cotisation. Et cette cotisation-là, c'était comme ça que ça finançait la sécurité sociale. Sauf qu'en 1991, on a créé un impôt qui s'appelle la CSG, Contribution sociale généralisée, qui déjà attaque cette idée de sécurité sociale, c'est-à-dire que c'est par un impôt qu'on finance les dépenses de protection sociale, ce qui est des formes de financement d'organismes de protection sociale dans d'autres pays, mais qui va contrecarrer, on va voir, le système français. Donc on a déjà aussi fait des allègements aux entreprises, c'est-à-dire qu'il y a les entreprises qui peuvent, en fait, sous certaines conditions, bénéficier d'allègements de cotisations. Donc, faire rentrer moins d'argent dans la sécurité sociale. Ce qui fait cette baisse des recettes, c'est-à-dire qu'on a diminué les cotisations sociales sur la part du salaire pour diminuer le coût du travail pour les entreprises, pour qu'elles embauchent plus, pour lutter contre le chômage. Vous voyez un peu la logique qu'on a encore. Je pense que c'est un discours que vous entendez suffisamment à la télévision pour vous le répéter longtemps. Mais en tout cas, ce mode de pensée que va avoir Alain Juppé.
Alternant FM.
Qu'est-ce qui se passe en 1995? Jacques Chirac est élu en mai, il nomme Alain Juppé. Alain Juppé est donc le Premier ministre qui est reconduit en septembre. 4 septembre, il annonce le gel du salaire des fonctionnaires. Aujourd'hui, ça ne nous paraît pas quelque chose de ahurissant parce que le salaire des fonctionnaires est gelé depuis bien longtemps. Mais en tout cas, ça déclenche quand même une chose inédite, c'est-à-dire qu'une unité de tous les syndicats de la fonction publique, ce qui n'était pas arrivé depuis presque 10 ans en France. Et du coup, il y a une unité des syndicats de la fonction publique qui dénonce ce gel des salaires et qui appelle à une journée de grève le 10 octobre. Et ensuite, il va y avoir 2 propositions de loi. On est au 50e anniversaire de la sécurité sociale et Alain Juppé va proposer une loi, un plan. Et dans ce plan, il est prévu quoi ? Il est prévu, donc c'est un plan d'austérité. C'est-à-dire, si vous lisez le plan, c'est dit clair et net, l'objectif numéro 1, c'est de réduire les dépenses pour arriver à combler le, enfin à diminuer le déficit et à répondre aux exigences du traité de Maastricht qu'on a signé. Donc, qu'est-ce qui est visé? C'est les 64,5 milliards du trou de la Sécu. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Et ce trou de la Sécu, donc je vous ai dit, hein, il y a eu un allègement des cotisations des entreprises, donc forcément moins de recettes, donc forcément moins d'entrées d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il prévoit pour lutter contre ce déficit? Il prévoit un nouvel impôt qui s'appelle la RDS, la contribution à la réduction de la dette sociale. Donc, on parle de dette, alors qu'on aurait pu employer d'autres mots, mais en tout cas, voilà. Une augmentation de la CSG sur les retraités et les chômeurs. Donc, c'est-à-dire que les chômeurs et les retraités étaient, avant 1995, de par leur situation, comme n'étant pas les principaux financeurs de la sécurité sociale, vu que c'était la sécurité sociale est pensée comme les travailleuses et travailleurs financent pour les personnes qui ne sont pas en capacité ou de travailler, d'avoir un emploi. Les gels de la CAF, donc des allocations familiales, la départementalisation des caisses de sécurité sociale, donc c'est-à-dire que si on veut aller à sa caisse de sécurité sociale, par exemple, c'est ce qui explique une grande mobilisation à Roanne, c'est qu'en Loire, on va aller de l'autre côté de la Loire, vous avez deux organismes de sécurité sociale, un à Saint-Étienne, un à Roanne. Les villes sont à 80 km, on fait pas ce trajet-là juste pour aller demander un remboursement, aller voir sa conseillère. Et en tout cas, l'idée, c'est d'en avoir plus qu'une par département pour diminuer le nombre de salariés et du coup diminuer le coût des caisses de sécurité sociale. Il prévoit aussi l'augmentation du forfait hospitalier. Donc aujourd'hui, vous savez que si on va à l'hôpital, ben on paye de plus en plus. Et le forfait hospitalier a augmenté de manière continue depuis 1995. Donc c'est la part que, pour les personnes qui ne vont pas souvent à l'hôpital, c'est la part qu'on paye quand on fait un séjour en hôpital. La création des ARH, aujourd'hui on appelle ça ARS. Donc vous voyez, c'est pro-consul de la santé. Donc c'est des sortes de superstructures de la santé qui ont fusionné plein de services différents pour en devenir des chefs de la santé aujourd'hui, c'est-à-dire que tout centre de santé est financé par l'ARS, doit des comptes à l'ARS, c'est l'ARS qui décide du fonctionnement de l'hôpital, etc., etc. L'augmentation du temps de travail des fonctionnaires. Il faut savoir qu'en 1993, le travail des salariés du privé était passé, donc c'est une défaite, était passé de 37,5 à 40 annuités. Et l'idée, c'est de faire pareil sur les fonctionnaires, de passer de 30, de finir avec les 37,5 et repasser à 40. Et enfin, la dernière chose, c'est peut-être celle qui a un peu plus complexe à saisir, mais c'est la fin du paritarisme dans la sécurité sociale. La sécurité sociale, je vous ai dit que c'était créé en 1945-46, géré par les salariés jusqu'en 1967, à majorité par les salariés jusqu'en 1967, après une gestion paritaire en 1967, 50-50, patron-salarié. C'est un peu dur à comprendre, mais si vous êtes 50-50, vous avez, imaginons, différents syndicats. Par exemple, le syndicat du MEDEF, qui est assez connu, qui était le CNPF à l'époque. Chez les salariés, les deux principaux syndicats dans les années 50, la CGT, les années 60, la CGT, Force Ouvrière et la CFDT. La CGT, qui était en tête dans la plupart des élections au niveau des salariés, n'était jamais élue, parce que si vous avez 5 ans, c'est des élections indirectes, si vous avez un CA avec 50-50, les représentants du patronat, ils préféreront voter pour Force Ouvrière, plus dans le dialogue social que la CGT, à l'époque des années 60. Et du coup, ce qui fait que c'est pour ça que la gestion paritaire a au final été une gestion qui a favorisé certains syndicats, plus dans le dialogue social avec le patronat. Et du coup, ce que prévoit le plan Juppé en 95, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, c'est le PLFSS. Vous voyez, là on en parle, on est en plein dedans, c'est aujourd'hui. C'est le plan de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire que ce soit les parlementaires maintenant qui décident de comment est géré l'argent du travail. Alors que ce n'était pas une prérogative de l'État. Vous voyez bien que on a, quand vous travaillez, c'est un rapport entre le patron et vous, votre force de travail. Et du coup, là, c'est l'État qui va prendre en charge ce budget de la sécurité sociale. Donc, ça va changer quand même beaucoup ce qu'était la sécurité sociale et ce que devient la sécurité sociale après 1995. Et enfin, c'est le contrat de plan à la SNCF. Le contrat de plan à la SNCF, c'est quoi? C'est augmenter le tarif, supprimer 6000 km de lignes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des déserts. Enfin, non, le plan qui était prévu, c'est que le centre de la France soit un désert ferroviaire, et l'attaque du statut des cheminots, et plein d'autres éléments, mais on va faire assez vite. À cela s'ajoutent deux autres problèmes pour les salariés des années 90 et les étudiants des années 90. C'est que de 1, on a massifié l'enseignement supérieur. C'est pas un problème, ça, vous allez me dire. C'est plutôt bien qu'une classe d'âge ait accès au bac et veuille faire des études supérieures. Mais sauf qu'on n'a pas prévu des structures qui accueillent ces étudiants et ces étudiantes qui sont trois fois plus nombreux par rapport à la fin des années 70. Et donc il y a des endroits où des locaux ont été construits, mais plein d'endroits où les étudiants se retrouvent par terre dans les amphis ou à l'entrée pour essayer d'aller assister à leurs cours. On a également la privatisation des autres services publics, la privatisation de France Télécom, des PTT, la séparation des PTT avec une privatisation des télécommunications, les premiers projets de privatisation d'EDF, GDF aussi. Donc on est dans cette vague-là, où en tout cas on a des rapports gouvernementaux qui sortent sur la question de la privatisation. En réalité, ce qui a attaqué en 1995, c'est les fondements de l'État social. C'est-à-dire, le fondement de l'État social, c'est quoi ? La sécurité sociale, les services publics. Donc c'est ça qui, après 1945, fait que, on va dire, la conception philosophique de la République sociale a en partie été mise en place à travers deux œuvres, la sécurité sociale et le développement de services publics à hauteur. C'est-à-dire que avant 1945, les services publics étaient quand même beaucoup plus faibles qu'après 1945. Vous voyez, il y a plein de raisons objectives qu'un mouvement social important naisse. Pourtant, on ne peut jamais prédire qu'un mouvement social va advenir.
Histoire plurielle des grèves de novembre et décembre 1995, une conférence de l'historien Rémi Azémar proposée par le Centre d'Histoire du Travail.